et à toutes. Si je vous dis, par un personnage biblique, je précise ce qui n'est pas un prophète et dont le nom signifie « Yahvé console ». C'est pas. Vous entendez mieux comme ça ? Donc, Yahvé console. De qui est-ce que je parle ? Une personne ? De Néhémie. Alors, on va se pencher un petit peu sur Néhémie, en particulier sur le premier chapitre, où Néhémie, un homme de prière et un homme d'action. Alors, il faut d'abord contextualiser, puisqu'on est chronologiquement, je dis bien chronologiquement, à la fin de l'Ancien Testament. Grosso modo, à l'époque de Malachie. La grande puissance de l'époque, c'est Babylone. C'est une puissance complètement hallucinante. Et environ 10% des Juifs sont revenus à Jérusalem et en Israël. Jérusalem a besoin d'être reconstruite. Il n'y a pas de rempart, il n'y a pas de porte. Enfin, il y a une porte, mais qui ne sert pas à grand-chose, puisque donc elle est toute cassée. Donc, elle est vulnérable. Alors, Néhémie aussi, on comprend souvent mal. Néhémie, il avait un rôle très important devant le roi. Donc, on va prendre Néhémie, chapitre 1. Voilà. Donc, Néhémie, c'était les chansons du roi. Alors, les chansons du roi, c'était celui qui lui servait du vin, mais c'était beaucoup plus qu'un serviteur. Parce que les rois de cette époque n'avaient qu'une crainte, c'était d'être empoisonnés. Donc les chansons goûtaient le vin avant. Si le roi était empoisonné et pas eux, ben, c'était fini pour eux. Et donc le roi avait énormément confiance dans cette chanson, qu'il va d'ailleurs nommer gouverneur donc un peu plus tard, et il est très très proche du roi. Les chansons, à l'occasion, conseillaient le roi. Et donc on va voir que Néhémie va quitter son confort, parce que vous imaginez le confort qu'il peut avoir. Il est à la cour du roi de Babylone, et Ataxerxès, bon, voilà, donc le roi de Babylone, et il va quitter son confort, mais on peut supposer que s'il a la confiance du roi, il a un confort quand même plus qu'enviable. Alors, Israël est dans un état, comment dirais-je, compliqué, puisque les rois d'Israël ont tous échoué, les prophètes sont ignorés, et les prêtres sont corrompus. Donc, en gros, il faut bâtir et réformer. Alors, première caractéristique de Néhémie, sa caractéristique principale, c'est qu'il est zélé. Regardez chapitre 5, verset 7. C'est une introduction, on va voir le chapitre 1. 5, 7. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi ? Vous prêtez à un tel et vos frères, et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Ils n'hésitent pas à faire des reproches. Ce sont des reproches justifiés. D'après la loi, un juif ne devait pas prêter à un autre juif un intérêt. Et pourtant, ils le font. Donc, ils n'hésitent pas. Ah, ensuite, au chapitre 13, un peu plus loin, versets 11 et 17, à nouveau, il fait des réprimandes. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? Et je rassemblais les lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Donc là, c'est même plus que du zèle. Il prend les choses en main. Il est très sérieux. Et enfin, verset 17 du même chapitre, je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ? Le jour du sabbat, comme vous le savez tous, c'était vraiment le centre de la vie religieuse des Juifs. D'ailleurs, toujours maintenant. C'est très, très important. Profaner le sabbat, c'était quelque part profaner Dieu lui-même. Parce que c'est un commandement qui était très, très important. Donc, notre Néhémie, il a confiance, il obéit, et surtout, surtout, il fait ce que nous devrions tous faire. Il met Dieu d'abord. De nos jours, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Des gens qui s'impliquent vraiment, il y en a, mais c'est une minorité. Il y a un manque d'enthousiasme et il y a une certaine tiédeur. Maintenant, quand on prie vraiment, quand on suit Dieu, il va répondre. Et allez au chapitre 6, verset 15. Je précise qu'il a reconstruit la muraille de Jérusalem avec les portes. Donc c'est un énorme chantier. Chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. 52 jours. 52 jours. Qui peut faire ça? Je ne pense pas qu'avec les moyens actuels, on y arriverait. Il faudrait, il y aurait 35 heures, pas trop. Là, ils s'y sont tous mis. Donc, quand on est dans la volonté de Dieu, ce n'est pas Néhémie qui le fait, c'est Dieu qui lui donne la force de le faire. Néhémie, donc, est un homme d'action et de prière. Et on va regarder le chapitre 1 et on va voir qu'il a la foi pour demander, il a la foi pour pleurer, il a la foi pour prier et il a la foi pour agir. Donc on va lire le chapitre 1 dans sa totalité. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc, d'abord, première constatation, c'est que Dieu sait parfaitement où placer ses serviteurs. C'est important quand on dirige une entreprise d'avoir des employés à même d'accomplir une tâche, d'accord ? Que la tâche ne soit pas trop importante pour eux, mais qu'ils ne soient pas non plus surqualifiés. Or, là, il sait parfaitement, Néhémie, il est à la cour du roi, qu'est-ce qu'il fait là, a priori ? Et pourtant, Dieu savait à l'avance qu'il aurait besoin de lui, et il a mis Néhémie à un poste clé. On se souvient aussi de Joseph, qui passe du statut de prisonnier au statut de second pharaon. On pourrait dire qui l'eût cru. Dieu choisit toujours la meilleure des façons, même si parfois on se demande mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai appris ça. Il y a toujours une raison. Néhémie est choisi par Dieu et remarquez qu'il répond. Il répond. Alors, Dieu ne lui parle pas directement, mais il lui met à cœur d'accomplir sa volonté. Et il a à cœur d'accomplir sa volonté tellement forte que s'il ne le fait pas, c'est un péché. Alors, s'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Quand Dieu nous demande quelque chose, quand on a... Vous savez, on a parfois comme une petite voix qui nous dit « Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. » C'est tellement et impossible de penser à autre chose. Et si on a conscience que c'est le Seigneur, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc, si on ne fait pas la volonté du Seigneur alors qu'il nous demande de la faire, ben, c'est dommage pour nous, on se prive des bénédictions, et de toute façon, nous sommes ses serviteurs. Donc, un serviteur qui ne fait pas la volonté de son maître. Alors, ensuite, Néhémie est quand même un homme terre à terre, puisque qu'est-ce qu'il demande au verset 2 et 3 Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il a à cœur ses frères. Il demande leurs nouvelles. Il les questionnait. Donc, il ne demande pas. A priori, comment ils vont? Ça va plus, c'est quand même plus que ça. Il les questionne. Comment ça va? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Comment et Jérusalem. Donc il a vraiment à cœur son peuple et Jérusalem tout entier. Il sait. Alors maintenant, il sait. Donc à partir du moment où il sait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il a deux solutions. Il a un poste enviable. Il se dit, je n'y suis pour rien. Autant rester là, je suis dans la cour du roi, c'est plutôt cool pour moi, j'ai la vie facile. Ou bien, il décide d'agir. Il décide d'agir. Savoir quelque chose et ne rien faire, c'est beaucoup plus grave que de ne rien savoir. Savoir sans que cela change, cela ne sert à rien. Supposez que, après le culte, on discute et vous avez un frère qui vous dit je me paye demain, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. J'ai rien. Vous lui dites, je vais prier pour toi. Et puis vous rentrez chez vous et vous mettez à table. Alors c'est bien de prier pour le frère, mais on n'a pas la possibilité de faire plus que ça. Si on sait et qu'on peut aider le frère en question, autant l'aider. Si on ne le fait pas, prier c'est très bien, mais prier suppose l'action. Et c'est exactement ce que fait Néhémie. Malheureusement, certains ne veulent pas savoir. Or là, Néhémie, non seulement il le sait, mais il va au-delà. Il cherche à savoir. Et au verset 3, ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Alors, les murailles, à cette époque-là, et donc toujours maintenant, c'est très très important parce que les villes étaient attaquées par tout un tas de gens. Et donc, plus les murailles étaient importantes, plus c'était une façon de montrer on est une ville forte. Et plus les murailles étaient importantes, mais on se disait, bon, là, c'est pas la peine qu'on essaye. Donc, une ville qui n'a pas de murailles peut être envahie très facilement. Or, il est clair que, dans la parole, et on va faire une petite parenthèse sur le psaume 62, le refuge, c'est Dieu. Donc, comment est-ce que la cité de Dieu pourrait être un refuge s'il n'y a pas de muraille? Et on va prendre brièvement le psaume 62 pour qu'on voit l'importance du refuge. Psaume 62. Voilà. Au chef des chantres, d'après Jédoutou, le psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous à l'abattre? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous à lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. C'est une prière qu'aurait très bien pu faire Néhémie. Ça rentre exactement dans le contexte. Alors, en répondant à cet appel, Néhémie est en communion totale avec Dieu. Et donc, étant en communion totale avec Dieu, il fait ce qui est important aux yeux du Seigneur. Protéger la ville, c'est protéger la venue du Messie. D'accord ? On est à la fin, chronologiquement, de l'Ancien Testament. Donc, il va commencer, les Juifs n'en savent rien bien sûr, une période d'attente de 400-450 ans. 400-450 ans, on est en 2023, ça fait 1623, c'est-à-dire, il me semble que c'était Louis XIII, ça fait quand même un sacré bout de temps. Donc, il est en communion avec Dieu, il a répondu à l'appel, et à partir de là, il va demander, il va prier. Et ça, c'est très, très important pour notre foi. On a trop tendance, on agit, on y va bien en tête, en ne priant pas. Donc, on dit que c'est pas bien d'agir sans réfléchir. Or, c'est ce que font beaucoup trop de chrétiens. Moi, le premier, hein. C'est la volonté du Seigneur. Allez, hop, on y va. Non. Qu'est-ce que faisait Jésus-Christ avant de faire quoi que ce soit? Il priait. Donc, si notre Seigneur priait, encore plus nous-mêmes. Alors, deuxième partie. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il pleure. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc là, pour l'instant, il ne fait rien d'autre que prier. Alors, la prière, avec les larmes, c'est un signe de force. Alors, bon, dans toutes les cultures, un homme, ça pleure pas. Si vous regardez les films hollywoodiens, les femmes pleurent quasiment tout de suite. Ah, mais les hommes, ah non. Ah, les hommes, jamais. Bon, ce sont des films, d'accord? Les femmes pleurent et les hommes pleurent aussi. Sauf que c'est malheureusement vu comme un signe de faiblesse dans la plupart des cultures, mais pas dans la parole. Dans la parole, c'est même un signe de force. Regardez, Jérémie 8, 22. Bon, Jérémie, de là est venue l'expression des Jérémiades. Hein. Bon, c'est pas très très glorieux, mais c'est de là que c'est venu. Hein. Alors, Jérémie 8, 22 et 9, 1. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Chapitre 9. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Je vous pose une question, est-ce que Jérémie était faible parce qu'il pleurait? Non, Jérémie n'était pas faible parce qu'il pleurait. Au contraire, il avait à cœur la mission qui lui était confiée par Dieu, et il la prenait au sérieux. À partir du moment où on a à cœur quelque chose, on y met de l'émotion. Si on ne met pas d'émotion dans une chose, c'est qu'on n'a pas vraiment la chose à cœur. Ensuite, deuxième exemple de quelqu'un de fort dans le Seigneur et qui pleure. Acte 20, 19. Vous vous doutez de qui on veut parler? De qui? Paul. Acte 20, 19. Voilà. On va le prendre peut-être à partir du verset 17 pour voir le contexte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc, il sert le Seigneur avec des larmes. Donc, non seulement ce n'est pas un signe de faiblesse, mais quelque part, c'est un signe que sa tâche est faite correctement. Et enfin, on va prendre deux exemples de notre Seigneur lui-même. Si le Fils de Dieu pleure, ce n'est pas un signe de faiblesse. Luc 19, 41. J'ai trouvé deux exemples. Enfin, en tout cas, j'ai pris deux exemples. Luc 19, 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il pleure sur la cité de Dieu. Donc, Néhémie, en pleurant sur la cité de Dieu, fait ce que Jésus-Christ fera quelques siècles plus tard. Donc, pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Et enfin, l'un des versets préférés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, Jean 11, 35. C'est le verset le plus court dans la parole. Donc, il s'agit de Lazare. On va prendre à partir du verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Alors, les théologiens donnent des explications. Oui, il pleure sur le péché du monde. Oui, c'est vrai. Mais il pleure aussi parce que c'est un homme. Et parce qu'un homme, quand on Quand on perd quelqu'un qui vous est cher, on pleure. Est-ce que c'est un signe de faiblesse? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Donc il va ressusciter Lazare. Donc, en pleurant, Néhémie ne fait pas justement quelque chose qui pourrait être associé à un signe de faiblesse, mais comme notre Seigneur, il prend sa charge à cœur. Il le fait volontairement. Comme notre Seigneur, il a à cœur ses frères, il a à cœur la ville sainte, il s'engage. Et ça, c'est très important. Donc, alors, bien sûr, il ne s'agit pas de pleurer dans n'importe quelle situation. Il y a des lieux pour ça. On ne va pas non plus pleurer tout le temps. Mais il y a certaines situations où pleurer est un signe de force. Alors, on va revenir à Néhémie, chapitre 1 toujours. Donc, il jeûne. Alors, là aussi, jeûner, manger, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Dans la loi juive, il devait jeûner une fois par an. Par contre, c'était un jeûne total, complet, de 24 heures au moment du grand pardon. Et donc, ils le font toujours. Hein. Alors, pourquoi jeûner? Parce qu'ils considèrent que cette tâche est si importante que tout le reste est secondaire. C'est la prière d'abord. Donc, tout ce qui peut le détourner de la prière, ils mettent de côté, y compris ce qui est indispensable. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on a cette attitude? Est-ce qu'on est rongé par le chagrin à cause des âmes perdues? Est-ce qu'on est rongé par le chagrin quand on regarde notre monde? Nous vivons dans un monde de ténèbres, mais quand on regarde notre monde, les images, ce qu'on entend, c'est il y a pas de quoi rire. Hein. Est-ce que à l'instar de Néhémie, on prend à ce point à cœur la volonté du Seigneur? Il veut le servir. Ayant à l'esprit que concrètement, on l'a déjà dit, il n'y est pour rien. Et pourtant, il choisit, comme Moïse, de laisser de côté sa vie confortable, parce qu'il sait qu'il peut faire quelque chose, et c'est là qu'il va prendre les armes de la foi et commencer par prier. Alors, le succès dépend de Dieu. Verset 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Donc, si nous sommes dans la volonté du Seigneur, nous allons réussir. Il faut prier avant d'agir, comme on vient de le dire. Prier, c'est être en communion avec le Seigneur. Quand on prie, on est en communion avec le Seigneur. Et ça nous est arrivé à tous. Parfois, on est fatigué, d'accord, ça arrive, et puis on dit non, pas ce soir. J'ouvre pas la Bible, et puis on ouvre, et puis on lit un verset, deux versets, un chapitre, deux chapitres, et puis on s'arrête plus. Et c'est justement de la prière dont on avait besoin, parce que peut-être qu'on avait perdu la communion, peut-être qu'on avait besoin de confesser un péché. Et donc, prier, c'est vraiment être en communion avec Dieu. Donc, si on est dans la volonté du Seigneur comme Néhémie, on doit prier parce qu'on est en communion avec lui. Dieu sait, Dieu peut, Dieu est tout-puissant. Néhémie reconnaît ce que Dieu est. Ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable. Grand et redoutable. Quand on prie, on s'adresse à qui? Je précise que personne n'est visé. Hein. Il y en a qui parlent à Dieu comme ils parleraient à un copain. Alors oui, nous avons accès par Jésus-Christ au Dieu Tout-Puissant, au Père, mais c'est quand même le Dieu Tout-Puissant. Donc ayons un immense respect. Quand on dit que Dieu est Tout-Puissant, on ne comprend pas ce que ça veut dire. La puissance de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Moi, je me suis fait la réflexion quand on regarde des reportages sur la puissance du soleil, ça donne le tournis. Et pourtant, il y a des étoiles qui sont 100 fois plus grosses. Donc, le soleil, c'est rien du tout. La puissance de Dieu, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et Néhémie, à sa façon, l'a bien compris en priant énormément, en se confiant tout le temps et avec respect, en ayant conscience de la personne à qui il parle. Regardez au chapitre 4, verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Il ne cherche pas à se venger. Il confie au Seigneur. C'est un gros problème, parce que pour reconstruire la muraille, c'est un véritable chantier. C'est pas juste un chantier au sens physique du terme, avec des briques et tout. Il y a de l'opposition. Regardez chapitre 8, verset 6. Là, c'est Esdras, mais on est toujours dans la prière. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Donc, le visage contre terre, c'est vraiment un signe d'humilité. Donc, ils avaient conscience de à qui ils parlaient. Et enfin, chapitre 9, verset 32. « Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable. » Si Dieu est redoutable, imaginez ce que c'est. « Toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout le peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. » Donc, Dieu combat pour nous, mais nous lui devons respect et humilité. Il est puissant, nous sommes impuissants. Là, vous savez, le plus fort des plus forts, je ne sais pas si vous regardez, il y a une compétition qui s'appelle l'homme le plus fort du monde. Taille moyenne 2 mètres, poids moyen 150 sur 60 kilos, c'est assez rigolo, mais dans 20 ou 30 ans, un peu plus, mais ils auront perdu cette force. La force, Dieu ne perd pas sa force, nous sommes impuissants. Dieu est grand et tout puissant. C'est lui qui garde l'alliance. Toi qui gardes ton alliance et fais miséricorde. Donc là, on est dans la grâce. La miséricorde, c'est Dieu qui ne donne pas, qui ne châtie pas comme le peuple le mériterait. C'est pas le peuple qui garde l'alliance, c'est Dieu qui garde l'alliance. Et ça, Néhémie en a parfaitement conscience. Regardez verset 11b. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. C'est Artaxerxès. Donc, il a conscience que le succès ne vient pas de lui. Et ça, c'est très important, que le succès ne nous soit pas attribué. La gloire, elle n'est pas pour nous, mais elle est pour lui. Je vous ai peut-être raconté cette histoire d'un... C'est un pasteur qui prêche sur le péché. Et donc, après le culte, il y a quelqu'un qui vient, qui lui dit, écoutez-moi, pasteur... Ça fait 20 ans que je n'ai pas péché. Pasteur est étonné, donc il lui pose des questions. Est-ce que t'as volé? Non, t'as menti? Non, t'as trompé ta femme? Non, blablabla. Et à chaque fois, il me dit non, j'ai rien fait de tout ça. Au bout d'un certain temps, le pasteur le regarde et lui dit mais tu dois être fier alors. Alors, le visage de l'homme s'illumine, fait un grand sourire. Ah ouais, bien sûr, je suis fier. Donc, vous avez compris que d'abord, il mentait. Et ensuite, il s'attribuait quand même cette gloire à lui-même. D'accord? C'est le principe de l'orgueil. Donc, avant une grande œuvre, et c'est exactement ce que Néhémie fait, il nous faut un grand maître d'œuvre. Et donc, c'est la volonté du Seigneur qui passe d'abord, et c'est l'œuvre du Seigneur que nous faisons. Mais quelque part, c'est pas nous. Enfin, oui, concrètement, c'est nous qui le faisons avec la force que Dieu nous donne. Sans cette force de Dieu, on ne pourrait rien faire. Et Jésus-Christ lui-même met la volonté de son Père avant la sienne. Regardez Luc 22, 42. C'est un passage qu'on connaît. Hein. Luc 22, 42. Alors, on va prendre à partir du verset 39, c'est à Gethsémané. Après être sorti, il alla, Jésus-Christ, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, si notre Seigneur lui-même met la volonté du Père avant la sienne, ça veut dire que c'est la volonté du Seigneur, son œuvre, sa force. Avant tout. Néhémie a aussi conscience que Dieu, j'aurais dû mettre un marque-page, Dieu tient toujours ses promesses. Regardez toujours. Au verset 9, toujours du chapitre 1, il rappelle l'histoire du peuple de Dieu. On peut prendre à partir du verset 8. « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Néhémie sait et a conscience que Dieu tient ses promesses. Comment être persuadé que Dieu tient ses promesses? Ben, il faut lire la parole. Néhémie est saturé de la parole. Il rappelle le passé, ce qui s'est produit, les péchés, mais aussi les promesses de Dieu. Je m'amuse, entre guillemets. Je lis la Bible en ce moment et je souligne toutes les promesses. Il y a des promesses partout. Il y a des promesses partout, partout, partout. Vous savez, quand on souligne en couleur, bon, ça permet de voir les choses. Et Dieu tient toujours, toujours, toujours ses promesses dans les deux sens. Hein, dans les deux sens. C'est que si les avertissements sont des promesses, si vous ne faites pas ma volonté, ben, voilà ce qui vous arrivera. C'est une promesse aussi. Mais il promet aussi que si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors je vous rassemblerai. Même si ça paraît impossible. Quand ils sont exilés à l'extrémité du ciel, les ramener, c'est compliqué. Pas pour Dieu. Alors, ensuite, la question qu'on pourrait se poser, c'est « Et nous ? Est-ce qu'on tient nos promesses ?» Il faut, hein ? Je vous rappelle que la parole ne nous demande pas de faire des vœux, mais quand on en fait, il faut les tenir. Ensuite, sa confession est sincère et inclusive. Il ne se dédouane pas. Il ne se dédouane pas. D'accord ? Il s'inclut. Il dit bien « Nous t'avons offensé ». Verset 7. « Nous n'avons point observé les commandements et les lois que tu prescrivis à ton serviteur. » Il dit, en gros, nous sommes tous pécheurs. Et ça, c'est très important. Que, à ma honte, une fois, j'ai dit à quelqu'un « Tu es un pécheur. » Ah, la réponse a été « Non, non, toi oui, mais moi non. » Ça vous est certainement arrivé aussi. Nous sommes pécheurs. Quand on témoigne, je crois, il faut commencer par dire « Je suis pécheur et toi aussi. » Si on dit « Tu es pécheur », aïe, 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 aïe. C'est, il y a des gens qui ont du peps en face et ils vont vous dire « Oui, toi oui, mais moi non. » Nous sommes pécheurs. Et ça, c'est très important. Néhémie se met exactement avec les enfants d'Israël et confesse leurs péchés et les siens. Au verset 6, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés, donc ils s'incluent, contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Il ne cherche pas d'excuses. Quand on demande pardon, on ne va pas dire « Ah oui, mais Seigneur, j'étais fatigué, et puis la vie est dure. » Non, 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 non. Si on sait qu'on a péché, on ne va pas se chercher d'excuses. D'accord ? On a péché, point barre. Et il ne cherche pas d'excuses. Alors, Néhémie aussi se sait faible. Il se sait faible, c'est pour ça qu'il prie. Il se sait faible, il se sait pécheur, et il sait que la tâche est immense, il n'y arrivera pas tout seul. Dieu agit sur les gens faibles, en fait. Hein. Si on se sait trop fort, ben, Dieu n'agira pas. Il faut se reconnaître pécheur, il faut se reconnaître impuissant, et... Je ne vais pas donner de cas précis, mais ça m'est arrivé une fois de me dire, vous dites, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'arriverai pas. Tout est venu comme ça. Tout est venu comme ça. Je me dis, j'arriverai pas. J'y arriverai pas. Et les choses sont venues comme ça. Et c'est d'ailleurs assez... sur le moment, on se dit, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc, Dieu agit à partir du moment où on lui fait confiance et où on reconnaît que nous sommes faibles et que c'est lui qui est tout-puissant. Regardez au verset 20 du chapitre 2. Et je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Là, il parle des gens qui ne sont pas juifs et qui n'ont pas donc à les aider. Donc, il a confiance que le Seigneur agira. Et c'est d'ailleurs un exemple. Aucune conversion ne se ressemble, et pourtant il y a un point commun. Il y a un moment où on se dit « je suis pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même ». Et c'est à ce moment-là que Christ intervient. On est tous passés par là. Hein. Ouais, je suis un pécheur, mais enfin bon, je vais essayer un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Et puis on se rend compte que, ouais, c'est vous savez, comme les tuyaux qui fuient. Donc on met le pouce à un endroit, puis bon, ça fuit à un autre. Donc en gros, on s'en sort plus. Et c'est quand on dit « je peux pas, je peux pas, je ne peux pas me sauver moi-même », et c'est là que la parole agit, que Christ agit. Notez que avant d'agir, il a prié. Et c'est là qu'il y a un moment pour agir maintenant. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on va voir le verset, chapitre 2, verset 18, vous allez voir. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, c'est le peuple d'Israël, hein, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Un petit peu après, Sambala le Ronite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Deuxième fois. Mais vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chapitre 3. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Donc, le souverain sacrificateur, c'est la personne la plus importante de tous les prêtres. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il se retrousse les manches, et il travaille avec les autres. Donc là, il y a un moment pour agir. Il a prié, il y a un moment où il faut se retrousser les manches et agir. Si on prie pour témoigner, mais si on ne témoigne pas, donc il y a un moment où il faut se lancer. Et ça peut supposer des mises à l'épreuve. En parlant au roi, Néhémie prend un risque. À qui parle-t-il? La puissance des rois de cette époque-là, si quelqu'un leur plaisait pas, donc qu'il l'éliminait. Et en gros, on avait deux droits, hein, le droit d'être d'accord avec lui et le droit de se taire. Si on n'était pas d'accord avec lui, on restait pas vivant longtemps. Donc il prend un risque. Dieu peut nous tester exactement comme il a testé Esther qui va voir le roi. Elle sait pas du tout comment le roi va le prendre. Le roi est tout puissant, on ne s'approche pas de lui comme ça. Mais Néhémie a conscience qu'il est dans la volonté de Dieu, il a conscience qu'il fait ce que Dieu veut qu'il fasse, et il lui laisse tout le reste. En tout temps, il lui déteste. Hein. Souvenez-vous Abraham et Lot à Sodome, Moïse et l'Égypte, David, et Saül aussi. Saül, il essaie de tuer David donc à plusieurs reprises, il le pourchasse, et pourtant, David... continue son œuvre. Et enfin, on va prendre Esther et le roi. Regardez Esther 5, 1, 1 et 2. Esther 5, 1 et 2. Esther 5, 1 et 2. Donc, la reine Esther n'a pas été appelée par le roi depuis quelque temps. Et elle sait que si elle va devant le roi et qu'il ne lui donne pas le sceptre d'or, en gros, c'en est fini pour elle. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Donc c'est quand même très très solennel. Lorsque le roi vit la reine Esther debout devant la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout de son sceptre. Donc, elle a répondu et le Seigneur a adouci le cœur du roi. Donc, parce qu'elle est dans la volonté de Dieu. Et il y a des tests aussi. Paul, il finit en prison. Paul, qui a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament, et pourtant, il finit en prison et dans des conditions assez sordides. Hein. Et il y a un passage qui me vient à l'esprit maintenant, c'est dans une lettre, il dit à la fin, complètement à la fin, et apporte-moi la couverture. Donc il a froid. Il a froid, mais il pense d'abord au Seigneur, d'abord à sa volonté. Et pourtant, il a froid. Dormir dans des prisons humides, quand on a froid, c'est vraiment, 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 vraiment pas agréable. Et là, il pense à lui, tout à fait à la fin. Apporte-moi une couverture. Tout à fait à la fin. Et bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, il a été testé. Les tentations, c'est quoi? Il est testé en tant que fils de Dieu. Mais il a passé le test et il est mort pour nous. Béni soit-il. En conclusion, il nous faut absolument mettre notre foi en Dieu. Ne pas croire en Dieu, mais croire Dieu. Il y a plein de gens qui croient en Dieu et ça ne change rien à leur vie. Des gens qui croient en Dieu, comme on croit aux extraterrestres. Il faut croire Dieu. Croire en Dieu et croire Dieu. Travailler avec confiance, même si on n'en voit pas les fruits. Vous avez peut-être entendu parler d'un prédicateur américain en Chine, Hudson Taylor. Il a énormément travaillé, mais il n'a pas fait tellement de conversions. Mais alors à sa mort, à tout d'un coup. Mais et alors, ayons conscience que on ne travaille pas forcément pour voir des fruits. C'est possible, mais parfois on n'en verra pas. L'objectif, c'est que la volonté du Seigneur se fasse. Parfois c'est un petit travail, parfois on en verra les fruits, parfois on n'en verra pas les fruits. Et enfin, donc, notre foi en lui, travailler avec confiance et en ayant conscience que l'avenir lui appartient. L'avenir ne nous appartient pas. Regardez Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est maintenant. C'est maintenant. Il ne demande pas donne-nous demain, dans une semaine, dans trois jours. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut lui faire confiance. C'est maintenant sa volonté. Et il faut lui faire confiance parfois, malgré ce qu'on voit. Quand Bob Hoffman est arrivé, il avait quoi ? Sa foi en Dieu. Il n'avait pas énormément d'argent. Il a commencé avec un petit groupe, une maison, et puis une église. Au départ, c'était quoi cette église ? C'était un entrepôt. C'était pas isolé. Regardez ce qui a été fait par la volonté. Alors bon, moi j'étais pas là, donc bon, je vois les choses donc avec une certaine distance. Mais au départ, il n'y avait pas grand-chose. Et je pense qu'il y a eu des doutes aussi. Est-ce qu'on va y arriver ? Sauf que si vous vous étiez dit « Ah ouais, mais c'est pas sûr, donc on n'essaye pas ben », donc on ne serait pas là maintenant. Donc il faut savoir faire confiance. Ce n'est pas facile. L'église au départ, l'église avec un grand E, il y avait quoi ? Il y avait les 11 apôtres, il y en a un qui était parti, quelques frères, quelques sœurs, mais il y avait quoi ? Face à l'Empire romain, face aux grands prêtres, il n'y avait pas grand-chose. Et pourtant, vous verrez ça dans le livre des Actes, mais la persécution les a amenés à évangéliser. D'accord ? Donc, on commence avec un petit groupe, mais ce n'est pas grave. Souvenez-vous qu'on est toujours gagnant avec Dieu, même si on est tout seul. Si on a Dieu avec soi, on est toujours gagnant. Même si on se dit « Ah, j'y arriverai pas, le morceau est trop gros pour moi. » Si Néhémie s'était dit ça, il aurait fait quoi ? Ben, il serait resté avec Attaxerxès. Et donc, il serait resté. Alors, bon, un autre l'aurait fait. Mais que le Seigneur soit béni, faisons-lui confiance, malgré tout, malgré nous, et n'oublions pas qu'il travaille au travers de nous. Donc, si nous lui faisons confiance totalement, si nous le prions et si nous agissons, il saura nous répondre, il saura nous bénir et sa volonté s'accomplira. Béni soit-il. Amen.